Bienvenue à toutes et à tous à votre émission Sentinelle d'Humanité, Esprit Occitanie. À la technique, comme d'habitude, et à la réalisation, mon vieux complice Léo. Et aujourd'hui, je suis accompagné de deux jeunes stagiaires journalistes, Lydia et Mathis. Lydia et Mathis, soyez les bienvenus. Et votre serviteur, Andrés Atenza. Alors aujourd'hui, mon invité, c'est une grande fédération, mais on va parler de l'Ariège en particulier, vous verrez pourquoi, mais une grande fédération qui s'appelle la Fédération des pupilles de l'enseignement public, les PEP. Mais j'invite aujourd'hui le directeur des PEP de l'Ariège, Monsieur Mathieu Desarnaud. Monsieur Desarnaud, soyez le bienvenu.
Merci, bonjour Monsieur Atenza.
Nous avons, dans la Fédération des PEP, quasiment un représentant dans tous les départements de France. Territorial, départemental, local, c'est une vieille institution. Les PEP est né il y a 100 ans. Comment est née cette initiative et ce mouvement important, populaire, qui s'appelle les pupilles de l'enseignement public?
Effectivement, 100 ans, 100 ans, même un petit peu plus dans beaucoup de territoires. Les PEP, c'est une association, un réseau qui naît pendant la Première Guerre mondiale. À un moment où la loi de 1905 n'est pas très très loin encore, elle est présente dans beaucoup d'esprits et où plusieurs instituteurs et professionnels de la Sorbonne viennent à penser que pour venir en aide aux orphelins de guerre, il y a besoin d'un mouvement qui ne soit pas confessionnel et qui soit comme c'est... Comme c'est le cas dans le courant de l'époque, laïque. Donc, sous l'impulsion de l'éducation nationale, on l'aura compris très, très fortement, il y a des œuvres des pupilles qui naissent dans les trois premières années, 1916, 1917, 1918, et qui fleurissent partout sur le territoire avec une prévalence départementale, ce qui explique un siècle après, même un peu plus, que le réseau soit couvert quasi totalement par des associations départementales ou territoriales, les PEP, effectivement.
Il y a quand même un homme qui a marqué, pourrait-on dire, l'histoire dans le mouvement des PEP.
Son premier président. Léon Bourgeois, prix Nobel de la paix.
Un prix Nobel, un grand humaniste. Oui. C'est quelqu'un qu'il faudrait relire, d'ailleurs.
Oui, comme parce beaucoup, que... les PEP ont eu la chance, tout au long de leur siècle d'existence, de croiser de grandes personnalités qui ont fait la politique française, effectivement, et qui ont participé à la politique française. Léon Bourgeois, le premier d'entre eux, effectivement, fondateur du solidarisme, et en tout cas promoteur fort du solidarisme, et qui a marqué durablement l'histoire de notre mouvement, puisque au fronton des PEP, encore aujourd'hui, le principe de solidarité est à côté de celui de laïcité, haut et fort.
Voilà. Et donc, dans le solidarisme, Léon Bourgeois, cette philosophie, il parlait même de la dette sociale, quoi, en disant il faut en effet se souvenir que cette dette sociale, eh bien, il y a quelque chose, il faut aider les plus faibles, les plus vulnérables, il faut tendre la main, et à la sortie de la guerre, bien évidemment, il fallait trouver des solutions pour accueillir tous ces jeunes et leur offrir un cadre digne.
Oui.
Un cadre digne pour une éducation. Hein.
Oui, effectivement, Léon Bourgeois, une citation qui reste présente chez nous, c'est « Être libre, c'est penser l'autre comme un soi-même ». Donc ça résume assez bien la façon dont on considère le rapport aux autres, c'est-à-dire de penser la relation humaine comme une relation avant toute de solidarité, les uns, les unes, envers les autres. Et donc, cette œuvre des pupilles, c'est pérennisé, étendu au territoire français pendant une dizaine d'années. C'était une œuvre de guerre pour la cause à l'époque. Elle s'appelait comme ça. Et très très vite, dans l'entre-deux-guerres, le terme de guerre a été remplacé, c'est heureux, par celui de paix. Les pupilles sont devenues une œuvre de paix. Et par contre, on gardait quelque chose qui est encore dans l'ADN de notre mouvement, ce principe de venir en aide aux personnes qui présentent des fragilités avec une étendue de plus en plus large des fragilités, évidemment, au fil du siècle.
Un mouvement émancipateur. Éduquer, il y a une dimension, non pas de dresser, mais surtout d'émanciper. Il faut former des citoyens du futur, c'est ça, l'œuvre des PEP.
Oui, oui, et puis un mouvement qui s'inscrit pleinement dans les mouvements d'éducation populaire, dans leur politique, dans leurs principes, dans leurs valeurs et dans leur façon de fonctionner. Donc encore aujourd'hui, c'est une famille dans laquelle on se reconnaît, avec qui on a plaisir à partager certains moments d'action.
Alors, si j'ai quelques chiffres qu'il faut donner, il me semble que c'est 22 000 collaborateurs, je veux dire salariés, directeurs, directrices, psychologues, enseignants, pour l'ensemble du réseau. Donc, c'est quand même quelque chose qui pèse. Hein. Ouais. C'est une fédération importante et c'est une fédération qui œuvre également pour défendre les intérêts, pourrait-on dire, de toutes les personnes aujourd'hui vulnérables, en tout cas tous les enfants.
Oui. Exactement, avec, vous le dites bien, un spectre d'intervention extrêmement large. Donc effectivement, 22 000 salariés, 1 200 environ établissements et services répartis sur tout le territoire national. On va pas se perdre plus que ça dans les chiffres, mais effectivement, une identité tournée autour de l'accompagnement de personnes qui présentent des fragilités. Et par contre, ça c'est quelque chose qui est important de prendre en considération, c'est que la prévalence départementale qui a eu lieu au début de du 20e siècle, donc à la création des PEP, est quelque chose qui a généré des spécificités départementales fortes qui se retrouvent encore aujourd'hui et qui font que d'un territoire départemental à un autre, les PEP n'ont pas tout à fait la même...
Il y a une singularité des PEP.
Voilà, n'ont pas tout à fait la même composition. On se retrouve sur les grands principes, on se retrouve sur la finalité de nos actions, mais il n'y a pas deux associations PEP parfaitement identique. Alors, sur le territoire national.
Revenons à notre territoire. Alors, terre et courage, l'Ariège, c'est ça ce qu'on dit ?
C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on disait.
La terre. Alors, d'abord, comment on devient directeur des PEP dans le département de l'Ariège ? Quel est votre parcours ?
Un peu par vocation, un peu par hasard. Je suis enseignant, moi, de vocation, de formation initiale. Enseignant du premier degré, instituteur, même si c'est pas comme ça, ça s'appelle professeur des écoles, mais j'aime bien le terme d'instituteur.
À mon époque, on disait le maître ou la maîtresse, donc j'avais un maître.
Et instituteur qui a baigné dans l'éducation populaire aussi tout au long de son adolescence et de son... premier pas dans l'âge adulte. Donc ça a conduit à faire en sorte que je me sois à peu près tout le temps intéressé au mouvement qui traînait sur le territoire ariégeois et qui œuvrait. Et donc, à un moment où l'association des PEP de l'Ariège a cherché à pourvoir un poste pour faire vivre son projet, j'ai candidaté et j'ai été reçu. Ça, c'était en 2007 et j'étais jeune à l'époque.
Ah, oh, ça va vite, ça va vite. Alors, si on rentre dans le détail des établissements et services, on a dit social et médico-social, mais également loisirs, quelles sont les activités que développent les PEP de l'Ariège, si on essaie de les lister?
Les PEP de l'Ariège, c'est une petite association de taille modeste pour quand on se compare à d'autres acteurs de notre territoire, mais par contre là où on est peut-être assez étendu, c'est sur tous nos champs d'action. On en dénombre, selon la façon dont on les compte, une petite dizaine, c'est-à-dire que nous intervenons dans le champ d'action qui accompagne les personnes en situation de handicap. On travaille avec des enfants dans le cadre de la protection de l'enfance, on fait du soutien à la parentalité, on intervient dans le tourisme social, on intervient auprès de femmes victimes de violences intrafamiliales, on fait de l'accompagnement à l'enseignement, on s'occupe aussi pas mal en ce moment d'animation de la vie sociale et des questions de liens sur les territoires, éducation à l'environnement, de pratiques artistiques. Donc ça fait un champ extrêmement étendu qui n'est pas pour simplifier tous les jours notre action, je vous le cache pas, mais qui fait aussi la richesse de notre intervention parce que notre leitmotiv, c'est d'essayer de ne pas cloisonner ces champs-là et au contraire de fonctionner en transversalité le plus possible.
Alors par exemple, sous la protection de l'enfance, vous avez quoi ? Une maison d'enfants à caractère social qui accueille combien d'enfants ?
Donc une toute petite maison d'enfants à caractère social qui accueille 7 jeunes sur le territoire de Foix, en Ariège, et qui fait un travail. Donc c'est une toute petite structure avec les fragilités que peuvent présenter ces petites structures, mais aussi les intérêts de ce type de collectif éducatif qui peut faire du sur-mesure avec les enfants qu'elle accompagne. Donc, c'est une structure atypique.
Ce travail d'accueil de maisons à caractère social, c'est en lien avec le département.
Tout à fait.
Donc, nous avons travaillé avec les services de l'ASE du département
exactement,
de l'Ariège.
Ouais. Nous avons trois dispositifs en lien direct avec le conseil départemental de l'Ariège, donc cette MEX à Foix. Un service d'accompagnement à la parentalité qui, lui, est situé à l'ouest du département, dans le Couserans, à Saint-Girons.
Alors, quand vous dites service à la parentalité, ça veut dire quoi? Vous recevez les parents qui ont des difficultés? Vous allez vers les parents?
Alors, c'est un service qui vise à permettre la rencontre entre des parents qui n'ont plus la garde de leur enfant et leurs enfants. C'est-à-dire le juge des enfants ou l'âge du juge des enfants a ordonné que pour des raisons de sécurité relationnelle et affective, les rencontres entre les parents et leurs enfants se fassent en présence d'un tiers médiateur.
Et donc d'un professionnel.
Voilà, d'un professionnel, un travailleur social, une travailleuse sociale en l'occurrence, et nous organisons ces visites et assurons la sécurité des enfants et des parents par la même occasion, évidemment, durant le temps que durent ces visites, quoi.
Vous avez également du médico-social. Le médico-social, c'est quoi? Institut médico-pédagogique ou plutôt DITEP, c'est-à-dire les troubles du comportement, ou peut-être vous avez les deux?
Donc cinq services, établissements et services médico-sociaux, un IME qui accueille, donc Institut médico-éducatif, à l'est du département pour le coup, qui accueille 40 enfants ou jeunes qui présentent des troubles du spectre autistique ou des déficiences intellectuelles, avec quasiment l'équivalent de personnes pour les accompagner au quotidien. Rattaché à cette IME, un service d'éducation spécialisée de soins à domicile qui, lui, accompagne une vingtaine de situations sur le territoire, mais au domicile. Les enfants qui présentent le même type de profil, mais on les accompagne sur leur lieu de vie. Toute fraîche unité d'enseignement élémentaire pour des enfants autistes, qui, elle, est située à côté de Foix. Et ensuite, deux...
Qui accueillent combien d'enfants?
Qui accueillent actuellement 8 et qui peut aller jusqu'à 10 enfants accueillis, 10 enfants. Donc une école ordinaire.
Vous avez un agrément pour 10 enfants.
Ouais, ouais. Et ensuite, deux services ambulatoires, donc sur la vallée de l'Ariège. Le CAMS et le CMPP, on est très fort en sigle dans nos secteurs.
Alors, donc, dites-moi, parce CAMS, que pour nos auditeurs, CAMS, ça veut dire
quoi? Le CAMS, c'est le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce. Donc, c'est un centre, comme son nom l'indique, qui s'occupe des enfants en bas âge jusqu'à 6 ans. Et qui va accueillir les enfants qui présentent des difficultés de tous ordres, en fait. C'est souvent la première porte d'entrée quand un enfant montre au cours de...
Parfois
de
difficultés d'apprentissage, de vie sociale, c'est ça?
On est malheureusement souvent sur des difficultés bien plus importantes que ça, et ça pourrait être du polyhandicap, des troubles du spectre autistique importants, des syndromes divers et variés, donc des enfants qui ont besoin d'un accompagnement et de soins et paramédical très très soutenu pour pouvoir. On sait que les premiers instants de la vie sont souvent décisifs et donc dans ces premières années, on essaie de pas perdre de temps et d'intervenir auprès de ces enfants pour que leur développement soit le moins empêché possible, quoi.
Et le CMPP?
Et le CMPP, donc Centre médico-psycho-pédagogique, qui lui intervient sur le territoire de Foix et de la Haute-Ariège et qui accompagne des enfants un peu plus âgés jusqu'à leur majorité. Sur des troubles psychologiques, des troubles des apprentissages cette fois-ci justement, et d'autres spécificités qui font que un enfant a besoin de venir consulter un professionnel dans son développement.
Donc vous couvrez, pourrait-on dire, l'ensemble du département, quoi, avec les dispositifs que vous venez de préciser.
Oui, c'est 14 sites sur l'Ariège, ce qui là non plus n'est pas un élément de simplification.
Comment? Oui, c'est pas simple à gérer, ouais. Sur les lieux.
On a une belle flotte de véhicules et 14 sites d'intervention avec des équipes qui peuvent aller de 2 personnes à près de 50 personnes pour l'équipe de l'IEM. Donc il y a aussi cette disparité-là.
Ces activités médico-sociales, ces financements Agence régionale de santé,
c'est exactement, ça la CNSA, c'est la solidarité nationale qui voilà. joue son rôle. Et là où la protection de l'enfance, vous l'avez dit, est financée par le conseil départemental.
Et là, le conseil départemental. Les relations avec ces deux tarificateurs, je m'adresse une question peut-être un peu polémique, mais est-ce que ce sont des relations bonnes avec le conseil départemental, avec l'ARS, avec les financeurs ou le tarificateur, pourrait-on dire ? Vous pouvez être politiquement correct.
Hein. Non, oui, je le serai de toute façon. Mais nos relations existent déjà et c'est déjà une belle chose. Ouais. Sur un territoire comme le nôtre, se couper de relations, c'est jamais évident. Donc, on discute très, très régulièrement. On est d'ailleurs en ce moment en phase de discussion très étroite puisqu'on renégocie les budgets pour les 5 ans à venir. Que ce soit avec l'une ou l'autre des autorités, et bon, ça se passe
bien. Voilà, vous êtes
en
phase d'une, ce qu'on appelle une contractualisation, qui va couvrir les 5 ans, ce qui vient quand même sécuriser l'association pour à peu près travailler correctement, pourrait-on
dire.
Si
le dialogue de base est bien fait, normalement, on peut...
Ça vous donne une vision.
Hein. Voilà, nous n'y sommes pas tout à fait encore. On y
donc,
travaille.
J'imagine qu'il y aura des négociations entre les services, on dit de l'État déconcentrés, qui sont les ARS, pour travailler et permettre aux établissements et aux directeurs que vous êtes de pouvoir, bien entendu, réaliser vos missions avec talent, comme vous le faites. Mais juste avant, je vous propose une courte pause, une petite balade. Jacques Brel, vous allez aimer tant qu'on a que l'amour.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, en direct du studio Gisèle Halimi, et toujours avec monsieur Mathieu Desarnaud, le directeur des PEP de l'Ariège, et avec mes deux complices, stagiaires journalistes, qui interviendront en fonction de leur envie d'apprentissage autour de cette question de l'éducation populaire. Alors justement, l'éducation populaire est quelque chose que les PEP développent un peu partout dans les départements, c'est en fait le tourisme social et tout ce qui lie le lien avec les loisirs. Et là, il y a une spécificité très très forte des PEP.
Oui, les PEP font partie des réseaux nationaux qui sont présents un peu partout sur le territoire national avec des centres de vacances, des centres d'hébergement qui accueillent des groupes d'enfants, d'adultes pour diverses raisons, soit des séjours pédagogiques, soit des séjours de vacances. On ne faillit pas à cette tradition puisque en Ariège, nous disposons d'un centre qui est situé dans les Pyrénées, dans la vallée de Vic-de-Sault, au village de Suc, très précisément, et qui accueille tout au long de l'année des enfants qui viennent participer à des activités autour de la découverte de l'environnement montagnard.
Ouais, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des vacances, vos directeurs scolaires, vous organisez des séjours.
Et même pendant les périodes scolaires, puisque nous sommes organisateurs de classes de découverte, les anciennes classes vertes, classes rousses, dont nous sommes certains à avoir
connu cela.
Voilà, et donc, c'est grosso modo, pour se donner une idée, c'est grosso modo 3500 personnes qui passent tout au long de l'année entre nos mains, entre guillemets, dans ce centre pour découvrir l'environnement qui est...
Et des jeunes qui peuvent venir de l'Ariège ou d'autres départements.
Exactement.
C'est très, très ouvert.
Historiquement, la coutume était d'aller chercher l'environnement qu'on n'avait pas chez soi sur ce type de séjour. Donc là, je remonte aux dernières années du XXe siècle. Et souvent, les enfants vivant en bord de mer venaient passer une semaine, 15 jours, voire 3 semaines des fois d'affilée dans une classe découverte à la montagne. Ça, du fait de l'évolution de la société, des coûts des transports, etc., etc., c'est une tendance qui est plutôt en berne. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est effectivement que le public se rapproche et nous accueillons pas mal d'Ariégeois ou plus largement des jeunes qui viennent de la région toulousaine très élargie. Et les publics qui viennent de loin se font de plus en plus rares pour des questions de coût, tout simplement, hein, parce que ce sont des séjours qui, pour une école, peuvent coûter très cher. Mais oui, ça fait beaucoup d'enfants qui passent
avec. Voilà, et vous participez chaque fois que c'est nécessaire aux vacances pour tous, quoi. Ouais. Offrir à chaque enfant de la République, comme dirait peut-être Léon Bourgeois, à chaque enfant, offrir quand même un loisir, un séjour quelque part.
Oui.
Un peu dans la veine ce que fait le Secours Populaire également, hein, des vacances pour tous, hein, il y a ce travail-là.
Oui, organiser des colos, permettre aux jeunes de partir là où ils le souhaitent d'abord, effectivement, et pas simplement dans notre centre, mais il est tout à fait légitime que le jeune d'Ariège ait envie de voir la mer et de passer 15 jours au bord de la mer, donc on essaie de faire en sorte que ce soit possible, quand on le peut, et ensuite nous inscrivons dans des dispositifs nationaux, effectivement, comme le dispositif qui est né pendant le Covid, enfin juste après le Covid, d'écolo apprenante,
voilà.
Et tout autre type de dispositif. Aujourd'hui, nous développons une première initiative l'été prochain, des séjours de répit pour des jeunes en situation de handicap, justement, qui ont envie et qui sont volontaires pour partir en séjour de vacances sur des propositions un peu différentes de celles qu'ils connaissent par le biais de leur établissement.
Pour le médico-social et les jeunes en situation de handicap, il y a des séjours adaptés.
Oui, et alors, séjours adaptés quand le projet est celui-là, j'ai envie de dire, mais notre philosophie, c'est de faire en sorte que les jeunes partent, et le réseau des PEP, pour le coup, est un réseau qui milite véritablement pour ça, que les jeunes partent dans un séjour lambda, et que ce soit le séjour qui s'adapte, plutôt que eux, le séjour qui s'adapte à leur spécificité, à leur particularisme. Donc, par un travail important fourni en amont entre l'organisateur du séjour et puis les personnes qui accompagnent le jeune tout au long de l'année, on se pose la question pour savoir à quelles conditions on va pouvoir accueillir ce jeune pour qu'il soit dans un confort suffisant. Et donc, on adapte le séjour. Des fois, on s'aperçoit que ce sera compliqué et pas possible. Donc là, mais évidemment qu'on sait ne pas mettre les gens en difficulté. Mais la plupart du temps, on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse aller à peu près partout.
Est-ce que vous organisez, parlant du tourisme social, des séjours plutôt pour les familles? C'est-à-dire les adultes qui peuvent partir avec les enfants ou les familles des quartiers les plus indigents, comme on dit, les plus pauvres, les plus précaires. Est-ce que vous organisez cela?
Alors, pas spécifiquement sur les questions sociales. D'autres associations PEP font ça, pour le coup, sur le territoire national. Il y en a qui développent ça. Sur l'Ariège, c'est on n'a pas identifié ce besoin-là. Par contre, nous travaillons de plus en plus avec certains groupes constitués, alors par exemple les enfants de tel ou tel établissement qui vont venir passer 3-4 jours sur un centre. On va proposer que sur 24 heures, les familles les rejoignent et qu'on partage ce temps-là. On essaie de faire en sorte de quand c'est possible et que ça demande pas une logistique énorme, il s'agit pas de faire 800 km à quelqu'un pour 24 heures, mais quand la proximité et de mise, on essaie de faire en sorte que les parents puissent participer à ces temps-là. Ouais.
Une autre question sur les activités des PEP de l'Ariège. Vous accompagnez aussi les enfants à l'aide de voir, dans le soutien, pourrait-on dire, à la scolarité. Et ça se développe, me semble-t-il, dans plusieurs PEP, dans plusieurs départements.
Oui, il y a beaucoup d'associations PEP qui sont implantées dans les quartiers. Je pense notamment aux associations qui sont sur des territoires métropolitains importants. Et donc qui ont une configuration tout à fait différente de la nôtre, elles sont très investies dans l'accompagnement au devoir. Nous le faisons ponctuellement sur des actions, alors soit par l'intermédiaire du SAPAD, le service d'accompagnement pédagogique à domicile, qui permet de maintenir l'enseignement quand l'enfant est déscolarisé pour raison de santé. Donc ça, c'est un partenariat assez étroit avec l'éducation nationale sur ce service-là. Soit alors, quand des écoles, des groupes scolaires ou des associations de parents viennent nous solliciter pour les aider à monter tel type de dispositif.
Donc là, ça fonctionne bien, pourrait-on dire. Là, oui. ça tourne. Voilà. Il y a autre spécificité importante de la fédération et donc des PEP de l'Ariège. La société inclusive, pour vous, c'est quelque chose de très important et que vous portez haut et fort dans tous les débats, dans tous les plaidoyers pour la République, dans toutes les élections. La fédération travaille sur ce fameux baromètre de la société inclusive. Que peut-on en dire de ce baromètre ? Là, les Français souhaitent une société inclusive. C'est ça la réalité, même s'ils savent que c'est difficile.
De manière constante, puisque maintenant on commence à avoir un bon retour, ça doit faire une bonne dizaine d'années que ce baromètre existe au sein de notre réseau. Et effectivement, vous avez raison, de manière constante, le fait que tout un chacun doit pouvoir prétendre à la place qui lui revient dans la société, ça c'est quelque chose qui fait vraiment quasi unanimité chez les Français, et c'est plutôt quelque chose dont on se félicite. Pour le coup, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas
c'est
fini,
peut-être la mise en œuvre qui est difficile, mais quand même, il faut l'affirmer.
Exactement. Et c'est quelque chose qu'on défend. Alors, une des choses auxquelles on tient le plus, c'est que nous souhaitons parvenir à cet idéal de société la plus inclusive possible par le biais de la transformation des environnements. Ça paraît peut-être un gros mot, mais entre faciliter la place à la personne en partant de ses besoins à elle et finalement en créant une situation spécifique pour chaque personne, ou bien faire en sorte que la société pense ça en amont et dans son organisation, que quelle que soit la spécificité, tout le monde puisse trouver une place. On penche plutôt pour cette seconde hypothèse et on travaille à ça. C'est-à-dire que nous avons notamment des dispositifs qui interviennent avec les structures de loisirs ou avec les structures petite enfance, qui sont ce qu'on appelle un pôle d'appui et de ressources au handicap et à l'inclusion, qui bosse donc avec les crèches, avec les centres aérés, hein, qu'on les appelle comme ça, et qui plutôt, quand une situation d'enfant problématique se présente dans l'accueil, on sait que ça va poser difficulté d'accueillir cet enfant, mais on le travaille en amont et on regarde qu'est-ce qu'il faut qu'on bouge dans l'environnement d'accueil pour que...
Et vous participez.
Et voilà. Et on accompagne l'équipe de professionnels ordinaires, de professionnels de ce lieu de vie ordinaire, pardon. On les accompagne à adapter les conditions d'accueil pour que l'accueil se fasse dans les meilleures conditions possibles.
Les PEP ont participé également très fortement à société inclusive et donc école inclusive, quoi. Et vous avez un lien, les PEP ont toujours un lien privilégié avec l'éducation nationale, certes historique, comme vous avez dit, et petit à petit, ce lien, alors j'essaie de le qualifier comme ça en étant le plus, essayant de trouver le mot peut-être qui correspond, ce lien s'est délité, mais ce lien s'est délité parce que, en effet, il fallait pas qu'une association particulière puisse bénéficier davantage par rapport aux autres associations. Il y avait ce jeu de la concurrence qui ne devait pas jouer ou qui devait être neutralisé. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est gérée cette affaire? Parce que il me semble qu'à un certain moment, il y avait même des directeurs d'établissement des PEP qui venait directement de l'éducation nationale et qui était détaché. Ce qui était une spécificité assez particulière pour les PEP.
Oui, vous avez
J'imagine que les autres associations pouvaient râler, hein, entre guillemets, en disant « mais ils ont des moyens que nous, on n'en a pas ».
Alors, je pense qu'il y a deux choses. Historiquement, effectivement, mais ça s'est lié à la naissance des PEP. Le lien avec l'éducation nationale a été extrêmement étroit. Et historiquement, les inspecteurs d'académie étaient...
Souvent les présidents.
Exactement. Dans la plupart des cas, les présidents ou présidentes de l'association des PEP départementales.
Donc, il y avait un lien, pourrait-on dire, quasiment organique.
Exactement. Ensuite, la question de la mise à disposition de postes dans le secteur médico-social, c'est quelque chose qui a eu lieu tout au long de la seconde partie du XXe siècle. Et je pense qu'il n'y a pas que les PEP qui en ont bénéficié, mais effectivement, beaucoup d'établissements médico-sociaux en bénéficient encore pour partie dans certains cas. Et je crois que c'est heureux dans la mesure où ce lien-là entre l'éducation nationale et le milieu spécialisé ne doit pas se perdre. Si je dois peut-être faire un raccourci hâtif, je pense que on était dans une situation d'amour forcé entre l'éducation nationale et le mouvement des PEP. Aujourd'hui, on doit construire un amour sentimental et on y travaille et il y a de beaux exemples qui existent. Enfin, j'ai plaisir à dire que nos relations avec l'éducation nationale, je pense au niveau national, et je suis certain au niveau ariégeois, sont bonnes et constructives.
Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations d'Occitanie présentes sur le département? Vous avez de la collaboration, rencontres régulières?
Notre projet associatif insiste là-dessus. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment, le conseil d'administration de notre association a vraiment posé la problématique de cette façon-là. Nous sommes dans un moment sociétal où... il est urgent d'agir pour si on veut pas vivre des heures sombres. Et pour le coup, tout seul, on n'arrivera à rien. Ça, nous en sommes convaincus. Donc, à plusieurs endroits, quels que soient les secteurs dans lesquels nous intervenons et tous ceux que nous avons cités précédemment, nous essayons de voir avec qui nous pouvons faire alliance utilement. Et on a des exemples très concrets de création de services, de démarches entreprises auprès des autorités qui sont menées collectivement et qui portent leurs fruits. Oui.
Est-ce que vous continuez à développer votre association en répondant à des appels, des appels de projets, appels manifestations d'intérêt? Est-ce que vous êtes dans cette dynamique, pourrait-on dire, de développement sur votre territoire?
Les 15 dernières années pour les PEP de l'Ariège ont été des années qui ont été constitués de ça, d'un développement assez important. En 2008, il y avait 6 salariés au sein des PEP de l'Ariège et aujourd'hui nous sommes 130.
Donc vous êtes on pourrait vous qualifier d'une grosse PME sur le territoire de l'Ariège.
Oui, une association modeste, mais une grosse PME, effectivement. Voilà. Oui. Donc forcément, il a fallu qu'on se pose un instant pour réfléchir et pour constater que le costume de l'époque n'était plus adapté à la stature actuelle. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un moment où plutôt nous essayons de pérenniser l'existant. Évidemment que si des besoins apparaissent, on se pose la question de savoir comment on peut y répondre. Mais l'idée est de structurer l'existant, de le pérenniser et de rendre la situation stable et confortable.
On a parlé de la fédération et du département de l'Ariège, fédération au niveau national, mais il y a aussi un échelon qu'on a oublié, qui est l'association régionale des PEP Occitanie, c'est-à-dire que les divers départements se réunissent, travaillent ensemble au sein de ce que vous appelez l'ARPEP, l'Association régionale des pupilles de l'enseignement public.
Tout à fait, c'est un échelon important, vous faites bien de le mentionner, c'est quelque chose qui existe de longue date, mais qui a été rendu encore plus indispensable avec la loi NOTRe et la réforme des régions qu'on a connue il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, toutes les associations d'Occitanie se réunissent de manière régulière, pour échanger effectivement sur sur les enjeux politiques, l'évolution des politiques publiques et quelles qu'elles soient dans tous les secteurs des PEP, éventuellement également faire en sorte que des projets menés sur un territoire puissent essaimer sur d'autres si leur pertinence est avérée. Aujourd'hui, l'ARPEP est un lieu qui travaille beaucoup et qui
un lieu de coopération.
Oui, de coopération à géométrie variable, et c'est très bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas 13 qui marchons au pas quand on nous ordonne d'aller dans cette direction, mais plutôt des affinités choisies, des affinités assumées en fonction des sujets, en fonction des questions que nous nous posons. Et la richesse du réseau est réellement présente.
Avant d'aller plus loin, alors je vous propose une musique d'ailleurs, et j'espère que vous allez apprécier, Monsieur Desarnoux.
Thank you.
Esprit Occitanie Sentinelle d'Humanité, toujours, avec le directeur des PEP de l'Ariège, monsieur Mathieu Desarnon. Donc, on a vu les dispositifs, les établissements, les services, mais il faut parler quand même d'une thématique, pourrait-on dire, qui est chère au PEP, la laïcité. Il y a actuellement un mouvement où toutes les PEP dans chaque département doivent organiser, où l'on les invite à organiser fortement une manifestation autour de la laïcité. La laïcité, elle est malmenée dans notre pays actuellement. Et les gardiens, pourrait-on dire, du temple de la raison, les humanistes, sont souvent les militants des PEP. La laïcité, il faut défendre cette laïcité qui est en fait ce qui permet de vivre ensemble et de fabriquer du bien commun.
Oui. Oui, que dire de plus que ce que vous venez de dire? La laïcité, effectivement, c'est le ciment du vivre ensemble. Nous y sommes attachés depuis le début, je vous l'ai dit, parce que l'histoire des PEP s'inscrit en ligne directe de la loi de 1905. Pour le coup, là non plus, nous ne sommes pas seuls, et heureusement, nombre de mouvements d'éducation populaire et d'autres défendent haut et fort ce principe de laïcité. Avec, je crois, et ça c'est quelque chose aussi que nous permet l'appartenance au mouvement des PEP, la prise en considération que la laïcité, selon un territoire, le besoin de laïcité et les atteintes qu'on pourra lui porter ne seront pas du même ordre. Je ne dis pas qu'il y a des territoires où c'est nécessairement plus complexe que d'autres, mais je ne prétends pas me poser les mêmes questions que des territoires urbains ou que des territoires...
Est-ce que vous avez eu des difficultés, par exemple, avec les jeunes que vous accueillez dans les établissements sur la problématique de laïcité? Est-ce que cela se pose toujours?
Oui. Mais ce sont de bons problèmes. C'est-à-dire que nous accueillons des jeunes étrangers qui arrivent sur le territoire, qui n'ont pas la même culture que la nôtre. La laïcité, c'est pas inné. La laïcité, il faut l'expliquer. La laïcité, il faut la décortiquer. Il faut l'illustrer par des exemples. Il faut la faire comprendre. On s'applique à ça avec les jeunes que nous accueillons. Mais bien entendu que sur les questions de repas, sur les questions de rythme journalier, sur les questions de pratiques religieuses, ces questions-là se posent. Mais les occulter, ce serait une erreur. Traitons-les, prenons-les de face et expliquons pourquoi, dans notre pays, la règle est celle-là.
On respecte, pourrait-on dire, le besoin de spiritualité d'un jeune, mais le prosélytisme ne doit pas s'exprimer dans l'espace public. C'est bien cette question. Donc, ce n'est pas la laïcité, ce n'est pas empêcher, non. Mais c'est de permettre de vivre avec l'autre. Et l'autre qui pense différemment que moi, mais qui ne vient pas, bien entendu... me fermer, on n'est pas dans l'ouverture, c'est une laïcité d'ouverture.
La laïcité, c'est tout le contraire d'un empêchement, hein, messieurs. Voilà. La laïcité, c'est au contraire une permission d'existence.
Total.
De tout.
Il y a une autre question que la Fédération et les PEP défendent très bien aujourd'hui, me semble-t-il, hein, je porte un jugement, l'autodétermination dans les politiques sociales et le développement d'agir. Il faut restaurer du mouvement autour de cette question du développement d'agir donné aux personnes avec, comme dit le grand économiste Amartya Sen, les capacités des individus à faire des choses. Vous défendez, vous également, M. Desarnaud, cette idée-là de développement d'agir, l'autodétermination des personnes?
On s'y efforce. Il faut prendre en considération le fait que c'est un changement culturel dans les pratiques des travailleuses et des travailleurs sociaux.
Ils s'y retrouvent, les travailleurs sociaux, sur cette question, ou on a du mal?
On se forme. Tout le monde se forme là-dessus, tous nos professionnels. Enfin, on essaie de mettre en place chaque année des formations sur cette thématique-là. Mais en prenant en considération aussi le fait que c'est un changement véritablement de paradigme pour des professionnels à qui on a dit pendant des décennies qu'il fallait protéger les personnes que nous accueillons. Et la mise en tension entre ce devoir de protection et le libre choix, le développement du pouvoir d'agir, comme vous dites, des personnes que nous accueillons, avec parfois comme corollaire la mise en danger de ces personnes-là, ne va pas de soi. Et pour le coup, il faut qu'on le travaille. Donc, comment on le travaille? Je vous l'ai dit, par des formations continues avec certaines de nos équipes. Nous avons également participé. On parlait de la fédération tout à l'heure. La fédération a mis en place un programme de formation sur l'autodétermination. Elle a réuni 25 personnes du réseau. Venant de toute la France, qui se sont formés sur des séances à l'autodétermination, que ce soit au siège fédéral en région parisienne, et qui sont également partis donc pendant une semaine à Montréal, au Québec, pour observer les Canadiens qui ont quelques années d'avance sur nous sur ce sujet-là. Et donc, une professionnelle des PEP de l'Ariège a fait partie de cette équipe-là et est revenue enrichie de toute cette vision-là. Donc, on essaie de mettre en pratique maintenant, de digérer et diffuser cette question-là. Mais elle va de pair avec ce que je disais tout à l'heure sur la question de la transformation des environnements. C'est-à-dire que le corollaire de cette transformation-là, c'est que les personnes, une fois qu'elles sont sur leur lieu de vie, elles doivent avoir toute latitude, toute liberté pour exprimer réellement leurs choix et les mettre en œuvre.
Établissement, service, il va falloir passer par les fourches codines de la haute autorité de la santé pour l'évaluation. Où vous en êtes? Ça y est, vous avez déjà passé quelques établissements à l'évaluation, ou vous êtes en préparation de la future évaluation?
Je soupçonne que vous ayez des indicateurs, parce que cette semaine...
J'ai pas d'indicateurs.
Nous avons fait le choix de l'évaluateur cette semaine, justement.
Ah, ça y est, vous avez fait le choix, donc vous passez...
Et nous y passerons en 2025.
Voilà, alors là, c'est un gros chantier.
C'est un gros chantier énorme, et là aussi, on parlait de changement de paradigme, là aussi, pour certains professionnels, c'est pas un mince chantier, et il faut vraiment prendre le temps de faire en sorte que tout le monde comprenne du mieux pour pas que ce soit vécu de manière violente.
C'est vous qui pilotez la qualité, ou vous avez à côté de vous un collaborateur, collaboratrice, salarié?
Non, nous sommes une petite association, donc effectivement, ma collègue directrice adjointe et moi-même assumons pas mal de ces fonctions transversales, et là, pour le coup, sur l'évaluation et la qualité, ouais, c'est nous qui nous y collons.
Il y a un jour, une directrice des PEP qui nous a dit, les directeurs et les directrices des PEP, ce sont des couteaux suisses, ils sont capables de tout faire. Vous êtes un couteau suisse, monsieur Desarnaud?
Je sais pas, peut-être émoussé par certains moments, mais...
Peut-être une dernière question. On arrive au terme de notre émission. Je vous remercie, Monsieur Desarnaud, des PEP de l'Ariège, de votre participation à Esprit Occitanie, dans Sentinelle d'Humanité. Alors, le recrutement pour travailler, faire fonctionner l'ensemble des services, il vous faut du personnel qualifié. Partout, on parle de la problématique du recrutement, de l'attractivité des métiers. Où vous en êtes sur le territoire de l'Ariège?
On n'échappe pas à ce que vivent tous les Français qui travaillent dans ce secteur, malheureusement, avec la spécificité d'être sur un territoire peu peuplé. Donc, il n'y a pas pléthore de candidatures quand on ouvre un poste. Jusqu'à présent, on arrive
Rassurément, il n'y a pas la guerre entre les associations pour se piquer les compétences.
Non, je vous l'ai dit, nous travaillons plutôt bien ensemble. Non, on n'en est pas là. Après, effectivement, quel que soit nos champs d'activité, nos métiers sont mal considérés actuellement dans notre société. Sur la filière de l'animation, on peut constater qu'il y a eu un travail intéressant qui s'est mis en place entre les syndicats employeurs et les syndicats salariés, qui a débouché sur des avancées notables, certainement encore insuffisantes, mais en tout cas, on a vu la situation évoluer. Sur la branche de l'action sanitaire et sociale, malheureusement, on ne peut pas en dire autant. Et aujourd'hui, nous sommes pris de plein fouet par des négociations salariales et conventionnelles qui n'avancent pas. Et on déplore cette situation. On espère qu'elle trouvera une issue favorable assez vite, parce que ça va pas tenir longtemps comme ça.
Donc il faudra trouver des compétences, des formations, des relations avec les centres de formation dans la région. Vous travaillez avec qui?
Nous travaillons évidemment avec Erasme, qui est présent sur Toulouse de manière assez étroite, puisque nous avons des appartenances communes. Ensuite, avec l'organisme de formation de la fédération qui est capable de monter des formations aussi sur mesure. Et puis, selon les moyens et les demandes qui émanent de nos établissements, nous pouvons faire appel à des organismes tout à fait spécifiques.
Vous êtes très attaché à votre territoire. Vous avez dit l'Ariège, etc. Voilà, j'ai travaillé, vous vous donnez quoi, 5 ans, 10 ans, et ensuite vous partez. Quelle est votre gestion de carrière, monsieur Desarnaud? Est-ce que vous en avez une? Ou vous dites non, on verra, faudrait les évolutions.
Faudrait que je m'allonge pour répondre à cette question, peut-être. En tout cas, s'il y en a une, elle n'est pas très consciente. Non, non, je suis bien dans ce métier, j'y prends plaisir, j'ai la chance de travailler, quels que soient les endroits de l'association, avec des personnes de qualité engagées. Et donc ça, j'ai envie de le garder pour l'instant. Dire de quoi sera fait l'avenir dans ce cas, je suis incapable de
votre dire. Gouvernance est une bonne gouvernance, comme on dit. Oui. Vous avez une bonne équipe autour des administrateurs militants qui ont envie de mener le combat.
Oui, un conseil d'administration étoffé de 24 personnes qui assistent réellement à nos travaux, et c'est rare, avec une coprésidence depuis quelques années maintenant, et des gens qui ont décidé de se répartir le pouvoir d'une manière tout à fait tranquille, apaisée et claire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un fonctionnement démocratique plutôt simple.
Monsieur Desarnaud, mille merci pour votre participation à Sentinelle d'Humanité, puis d'avoir présenté ce très beau réseau des PEP, Fédération des PEP, et particulièrement les PEP de la Riège, cette terre de courage. Voilà.
Oui, je vous remercie pour cette invitation et je m'en voudrais énormément de pas saluer les collègues des PEP de l'Aude qui dernièrement ont perdu un de leurs administrateurs qui nous était cher et donc j'ai une très forte pensée à eux dans ce moment-là.
Un militant de la première heure. Merci beaucoup et à très bientôt, Sentinelle d'Humanité à Esprit Occitanie. On se retrouve la semaine prochaine. Eh bien, j'aurai le plaisir de retrouver une intellectuelle, professeure à l'Université Jean Jaurès, Madame Flora Bassiani, sur la philosophie du soin. À très bientôt, chers amis.